parce que vous avez des choses à dire, des expériences à partager, parce que vous avez envie que ça change, Citoyens d'abord vous donne la parole.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré.
L'atelier populaire d'urbanisme de l'île Five et Radio Pastel, dans le cadre de l'émission Citoyens d'abord, vous propose un nouveau rendez-vous, La ville est à nous, une émission consacrée aux questions du logement, à l'habitat et aux enjeux de transformation des villes. Ce sera tous les premiers samedis du mois, de 12h30 à 14h, sur Pastel FM.
Bienvenue sur les ondes de Pastel FM, 12h passées de 45 minutes. Comme le jingle vous l'a répété à plusieurs reprises, on est bien dans l'émission Citoyens d'abord. Donc je suis avec Simon de l'APU de l'île Five et on a d'autres invités qui sont avec nous. On a Marie, on a Sherazade qui sont eux de la table de quartier du PIL. Donc je vais laisser Simon peut-être nous faire un peu le déroulé de, voilà, ouais, de notre émission.
Ben, bonjour à tout le monde. Ouais, ben, cette semaine, du coup, on va parler de trois choses différentes. On va parler d'abord de justement des suites du film dont on avait parlé lors de la dernière émission, Pile permis de démolir, qui a été projeté le 18 janvier au cinéma de Roubaix-le-Duplex. Donc du coup, on va parler un peu de comment ça s'est passé. Il y a eu un débat après qui a été intéressant à plusieurs égards. On y était tous, tous et toutes.
Toutes et toutes, oui.
Et donc voilà, qu'est-ce que ça peut donner? Quelles sont les ouvertures par rapport à ce qui s'est passé? Est-ce que ça donnait envie à d'autres gens de se mobiliser à Roubaix, ailleurs, etc. Dans un deuxième temps, on va parler justement d'un collectif qui se monte justement à Roubaix depuis quelques mois, et donc du coup la projection du film a permis d'en parler. C'est un collectif logement sur Roubaix justement qui veut essayer, qui est né notamment de la mobilisation qu'il y a eu au PIL et qui va essayer de se mobiliser ou de venir en soutien à d'autres habitants de Roubaix ou même des alentours sur justement les enjeux de logement et de rénovation urbaine. Donc voilà, on parlera un peu de la naissance de ce collectif et s'il y a des gens que ça intéresse, soit parce qu'ils sont concernés directement, soit parce qu'ils veulent participer aux réunions et aux actions qui sont menées. Mmh. Et après, dans un troisième temps, on parlera malheureusement du énième rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre sur la question du mal logement qui est sorti la semaine dernière. Et qui met notamment en avant la question des logements surpeuplés, qui, voilà, pour donner juste un chiffre en introduction, concerne 10 millions de personnes en France, donc c'est pas négligeable. Et donc on va en parler avec des gens qui sont concernés par ces questions-là et qui pourront nous faire part en plus de des difficultés qu'il y a aujourd'hui en France à se loger de manière décente, malgré le fait de faire des pieds et des mains auprès des bailleurs, des institutions, des dispositifs, etc., etc. C'est une question qui est vraiment très préoccupante aujourd'hui en France.
Rappelez le numéro de téléphone, donc c'est le 03 20 73 59 00 à tous nos auditeurs, tous ceux qui veulent participer à cette émission avec nous. Donc vous êtes les bienvenus. Donc on va commencer par le premier point, donc le film, la diffusion et l'après. Qu'est-ce que vous en retirez les uns les autres? Qui commence?
Simon. J'ai déjà parlé.
Qui commence?
Bon, pour moi, bonjour à tous et à toutes. La projection du film, c'était une très très grande réussite pour moi personnellement. Il y avait, la salle était pleine et surtout le débat était très très enrichissant avec tous les présents. Et surtout la suite de ce film-là, vraiment, il y a plusieurs quartiers qui nous ont sollicité de projeter le film chez eux. Apparemment, ça a touché pas seulement que Copil, en fait, ce qu'on fait. Vu qu'il y a le projet urbain qui sera à l'Alma et à l'Apple, il y a d'autres gens qui sont vraiment intéressés par notre expérience. Ce sera un témoignage et ça va leur aider dans leur démarche à eux. Et voilà.
Il y a même une dame qui s'est levée de la Ligue des droits de l'homme, je crois, de Tourcoing, qui parlait de la Bourgogne et qui était intéressée.
Exactement, ouais, ouais.
Elle s'est levée, elle a pris le micro dans la salle et elle a dit qu'elle aimerait bien... pouvoir projeter le documentaire à la Bourgogne.
Carrément, ouais. Même on avait des sollicitations de d'autres villes comme Angers, Marseille, même Washington en fait. Vraiment, il y a ce film-là, je crois, il va faire un très grand bruit. Ouais. Et tout ça, c'est grâce à la mobilisation des habitants pour défendre en fait leurs droits que seulement.
Marie, peut-être ?
Non.
Non.
Ce film-là, il devrait repasser. On devrait le faire repasser parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu rentrer. Et les habitants concernés carrément que leur maison doit être démolie auraient bien quand même voulu avoir un peu plus voir le maire ou alors l'adjointe au logement pour voir... un peu les dégâts que ça fait sur le moral des gens, sur la vie des gens. Parce que là, les maisons murées, et ça arrive encore, il y en a encore qui sont en train de se faire murer rue de Condé, devant la maison du projet. Il y avait un monsieur qui était là tout seul, il a dû déménager ce monsieur, ils ont pris sa maison. Bon, il a réussi à en avoir une autre, il me semble. Et j'ai vu que hier, il a muré encore. Donc, ça fait un peu beaucoup de maisons murées. Je pense pas que chez eux, c'est comme ça. Nous, pour l'instant, on est dans notre petit quartier. Moi, j'appelle ça le trou à rats. Mmh. C'est franchement tout muré, tout est pourri. C'est démoralisant pour tout le monde, aussi bien jeunes, vieux, tout le monde. Nos commerçants, ils ont perdu plein de clientèle. On faut dire ce qui est. L'ABC, place de Carnot, plus de clients. Ils ont perdu pas mal. Parce qu'ils ont non seulement fermé plein de maisons, et ils ont fermé aussi, ils ont abattu les appartements aux Trois Ponts, cette grande barre là, que pour l'instant c'est vide. Les grandes tours, c'est vide, ils sont toujours pas, ils savent pas ce qu'ils vont faire. Donc, je sais pas, ils démolissent, mais le rebâti, non. Pour l'instant, quand on va au vœu du maire, on entend, le Tour de France y vient, la culture, d'accord, ok, ça marche, je veux bien. Moi, je dis, pour l'instant, à Roubaix, c'est l'emploi et le logement. Et le logement, pas des petits logements, des assez grands logements. Par contre, aussi, ils ont dit qu'ils allaient faire le béguinage. Quand ? On ne sait pas.
C'est vrai, moi aussi.
Mais ils l'ont envisagé. Ça aurait été bien de démolir la crèche. Reconstruire la crèche tout de suite, puisqu'ils sont en démolition rue Marceau. Mmh. Et puis, faire tout de suite le béguinage. Mmh. Mais pour l'instant... C'est le jardin de la Tâturie, donc vive le jardin de la Tâturie.
C'est ça.
C'est mollo, c'est fini. Après, j'ai plus rien à dire.
Et surtout quand moi aussi j'étais au Vaud-du-Maire jeudi dernier en fait. Quand on entend les élus dire qu'il y avait une concertation, que tout allait bien dans le quartier, c'est pas vrai.
Non, c'est faux.
Mais c'est faux, carrément, c'est faux en fait. On voit vraiment les gens, l'histoire des gens. Quand on entend ce qu'ils disent, est-ce que les institutions voient comme une réussite pour eux? Non. Voir les gens de redevenir de relocataires de nouveau, c'est pas, pour moi, c'est pas une réussite.
Mais le documentaire, je pense qu'il fait passer beaucoup de choses.
C'est ça.
Parce qu'il raconte tout. Ouais. Et il montre des choses, il y a des choses qui sont flagrantes.
Ouais.
Donc on n'a même pas besoin de commenter, il suffit de regarder et vous comprenez la situation.
Ouais.
Et
ouais.
En juxtaposant des choses, en mettant... Les images parlent beaucoup.
Pour un peu revenir sur ce que... Parce que du coup, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas écouté les précédentes émissions. Donc, pour remettre un peu dans le contexte, du coup, le documentaire, du coup, était fait à partir de d'une lutte, d'une mobilisation d'habitants, d'habitantes du quartier du Pil à Roubaix qui se sont mobilisés. Alors, on dit souvent contre la rénovation. Là, c'est pas forcément le cas. Là, c'est plutôt face à la rénovation parce que tout le monde est bien conscient dans le quartier. Enfin, en tout cas, une grande partie des gens sont bien conscients que ils étaient pour une rénovation du quartier parce que de fait, il y a beaucoup de choses qui fonctionnaient mal. Et donc voilà. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que dès le début, les gens ont voulu s'associer au projet. Et en fait, l'histoire de ce documentaire, c'est de montrer comment de fait, les gens se sont rendus compte que tout le discours, comme dit Sherazade, sur la communication, la concertation, etc., en fait, c'est un discours de façade et que derrière, en fait, tout est déjà ficelé. Et donc, comment on se retrouve face à un truc, une grosse machine, nous, en tant que petits habitants, en essayant de mettre notre grain de sel. Marie en parle très bien. Voilà, les gens, ils avaient plein d'idées. L'idée de faire un béguinage, parce que ça concernait les démolitions, concernait beaucoup de maisons de personnes âgées. Ça va être fait. Donc ça, c'est une des grandes réussites de la mobilisation, mais ça va être fait après, à la fin de la rénovation du quartier. Donc du coup, les gens, personnes âgées qui vont être délogées, ne pourront pas en bénéficier. Enfin, en gros, c'était un peu de dire oui, il faut de la rénovation, mais c'était aussi de pointer tous les points de désaccord et les choses qui paraissaient pas logiques du tout et qui montraient en fait que ce projet, il n'était pas fait pour les habitants, en tout cas pas pour les gens qui aujourd'hui habitent dans le quartier du Pil. Ouais. Et donc le film raconte cette histoire-là. Donc voilà.
Et c'est une très belle expérience parce que on voit très bien comment ça a été fait avec les habitants. Et pour quelqu'un qui ne sait pas ce qui se passe, il s'assoit, il regarde le déroulé. Et je pense qu'il comprend tous les enjeux qu'il y a derrière, parce que c'est vraiment parlant.
Ouais, c'est ça. Et c'est le retour qu'on a eu parmi tous ceux qui ont regardé le film. Ils ont bien compris l'histoire. Et c'est, voilà. Genre, c'était vraiment...
Il n'y avait pas assez de place dans la salle.
Ouais. Ça, c'est vraiment...
Et ce qui était assez chouette aussi, c'était par rapport au débat qui s'est déroulé après, c'est que... encore une fois, je veux dire, souvent les gens disent, il y en a marre qu'on nous prenne pour... des cassos, des balochards, etc. Enfin, pendant les discussions après le film, on s'en est rapidement rendu compte aussi parce que très vite au début du débat, c'est souvent des associatifs ou des institutions qui ont pris le micro, des gens qui sont habitués à prendre la parole. Et on a même eu l'ancien maire de Roubaix qui est celui qui a lancé le projet, qui a intervenu pour prendre la parole. Et là, en fait, du fait de ce contexte où il y a un rapport de force qui était complètement différent que celui qu'il peut y avoir tous les jours, et ben du coup, les habitants ont pu prendre la parole pour rappeler à ses responsabilités l'ancienne municipalité et dire que c'était bien gentil de venir et de dire ah, c'est un film humain, on voit ce que vous avez vécu, etc. Et ça, François, il l'a très très bien dit. C'est non, pendant 3 ans, vous étiez pas là, personne nous a soutenus, on était tout seul. Et donc du coup, cette possibilité d'apostropher des politiques, voilà, qui est donnée. Enfin, c'est aussi fait pour ça, quoi. C'était
une belle mise au point.
C'était une belle mise au point, voilà. Donc on espère que ça va pouvoir être, comme disait Sherazade, diffusé ailleurs. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont intéressés pour le diffuser sur Roubaix ou ailleurs, vous pouvez nous écrire ou écrire à Pastel et puis ils nous transmettront le message. Mais voilà, non, c'était vraiment une chouette expérience, en tout cas.
Ouais. Et comme des projets, il y en aura encore.
Ouais, sûr.
Ils vont continuer à... aller démolir dans les quartiers. Et on avait eu aussi, lors d'une émission, une dame de la Lionnerie qui était venue et qui parlait de son quartier. Ouais. Et ils étaient en train d'appliquer les mêmes méthodes.
C'est ça.
Oui, ça, c'est démolir là, 63 logements, à chaque fois pour construire du logement, mais moins, et puis en plus pour des populations qui sont pas les mêmes, parce qu'on veut toujours mettre faire en... ce qu'on appelle la mixité sociale, quoi. Mais en mettant complètement de côté, c'est Nassim qui le dit très bien dans le film, mais en mettant complètement de côté le fait que les gens, ils ont une histoire avec leur quartier, ils ont des solidarités, ils ont des liens sociaux, ils ont leur commerce, ils ont leurs voisins, leurs voisines, etc. Et que taper là-dedans, enfin, c'est taper dans des trucs qui sont ultra sensibles et intimes et qui touchent la vie des gens, la vie quotidienne des gens. Et comme par hasard, c'est toujours sur les mêmes comptables, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours dans les quartiers populaires qu'on va aller détruire, etc. Alors que si on veut vraiment taper dans les lieux qui sont les plus homogènes, les quartiers les plus homogènes, c'est pas les quartiers pauvres, c'est les quartiers riches, quoi.
Et surtout, ce qu'il faut dire, qu'en fait, la gestion de rénovation dans les quartiers, il faut vraiment parler de ça. Comme moi, je balade dans le quartier du Pil, je vois des trous partout, des travaux qui sont, qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va finir ou quand est-ce que ça va commencer déjà. En fait, ils commencent un travail, ils ne le finissent pas, ils partent, ils reviennent. Ce n'est pas vraiment agréable à voir. Surtout, j'imagine, Marie, de voir ça quotidiennement, ça, C'est pas évident.
Ouais. On ne vit pas bien. On ne le vit vraiment pas bien. Mmh. Et je pense que les quartiers qui vont être réhabilités et qui sont sous projet, ça serait bien s'ils nous entendent, qu'ils viennent quand même nous écouter. Nous écouter. Mmh. Venir nous voir. Il faut se mettre à plusieurs quartiers comme l'Alma, comme l'Homelé. Je pense qu'il devait être aussi pris. Il faut se rencontrer et être à l'écoute des gens. Parce que toute cette solidarité... elle va s'envoler, ils vont mettre le coup de pied là-dedans et puis il n'y aura plus personne. Les personnes, moi j'ai ma petite dame du 94, elle a 91 ans. Je suis deux maisons à côté, donc c'est jour et nuit. L'alarme, elle m'appelle de jour comme de nuit. Si c'est pas l'alarme, c'est elle, puisqu'elle a un collier qui me fait appeler. Ce matin, elle avait un rat dans sa cour. J'ai réussi à la voir avec les pièges à colle. Elle a 91 ans. Alors, s'ils sortent maintenant, quand ils vont démolir, qu'est-ce que ça va être? Si je m'éloigne trop loin, comme ils ont éloigné Angelo, comme ils ont enlevé Yolande, elle a la chance d'avoir Amandine. Mais si je pars trop loin, ça y est, il faut se dire que cette petite dame, c'est sa mort. Là, ce midi, avant de venir, je lui ai ramené à manger. Demain, elle vient manger à la maison une fois tous les dimanches. Perrina, ma petite voisine d'en face, l'année passée, son mari fallait mettre ses collants à varices, ses chaussettes. Elle est venue me demander parce qu'elle faisait de l'arthrose. Je suis en face. Pourquoi je vais te dire non? Qu'est-ce que je te dois? Rien du tout. C'est un service envoie un autre. C'est la solidarité. C'est exactement comme si c'était notre famille. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Et tout ça, ça vole en éclats. Tout ça parce que cette municipalité, elle a choisi comme ça de mettre « on fait ça ». Mais « on fait ça », mais attends, on réhabilite tes maisons. Il y en a qui vont être à vendre et il y en a qui vont être mis en location. Gère un peu. Dis, cette personne, comme ils sont là, ces personnes, on ne va pas les éloigner des uns des autres. Comme exactement. Ça, ils sont là, ils sont encore... moi, j'ai 48 ans, mais ma voisine a 70 ans, 91 ans. Mariole a 65 ans. Si un jour, elle me dit, j'ai besoin d'une baguette, Marie, tu vas à l'école, prends-la. Je serai là. Et si je m'en vais loin, à qui elle va demander? Donc ça, il faut qu'ils y pensent. Vraiment. Il faut qu'ils pensent à l'humain à tout prix. Mmh. À l'humain, à la personne. C'est pas des herbes du jardin. Tout ça, c'est beau, d'accord, ok. Ça marche, on n'est pas contre ce projet. Mais on n'est pas contre non plus d'être séparés. Tiens, toi là-bas, toi tu t'en vas à Tourcoing, toi tu t'en vas à Waterloo, toi tu t'en vas... Non, c'est pas comme ça la vie. Mmh. On a formé des liens, elle a vu grandir mes enfants ont joué dans son jardin, Malika, elle est partie sur l'île Lanois. On les a perdu de vue. Quand on les voit, c'est à Auchan. Mais sinon, il y a plein de gens qu'on a perdu de vue comme ça parce qu'ils ont commencé à revendre. Ça fait longtemps. Regarde Laurent, la maison qui est devant la grande maison, qui est collée au Jardin du Bonheur. Cette maison, on a vu grandir ses enfants et tout. Il est parti habiter à l'Est. On ne voit plus personne, en fait. C'est pas logique. C'est des gens qu'on a vus, qu'on a fait plein de choses ensemble. Et du jour au lendemain, hop, on n'a plus rien. Voilà, c'est pas bien. Je pense que les gens que leur projet, qu'ils ont entendu qu'il y allait avoir un projet dans leur quartier, il vaut mieux qu'ils viennent se renseigner auprès de nous, qu'on peut quand même discuter et essayer nous de refaire passer ce film pour les inviter peut-être pour qu'ils viennent voir, pour qu'ils comprennent le mal qu'ils font aux gens. Parce que ça, c'est du mal. Ils n'ont pas pensé à l'humain du tout. C'est pas vrai, c'est pas possible.
On va peut-être faire une petite pause. Et on va attaquer le deuxième sujet juste après notre pause musicale. Donc, je sais pas ce que Farouk a prévu.
Parce que vous avez des choses à dire, des expériences à partager, parce que vous avez envie que ça change, Citoyens d'abord vous donne la parole.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré
l'atelier populaire d'urbanisme de l'île Fives et Radio Pastel, dans le cadre de l'émission Citoyens d'abord, vous propose un nouveau rendez-vous, La ville est à nous, une émission consacrée aux questions du logement, à l'habitat et aux enjeux de transformation des villes. Ce sera tous les premiers samedis du mois, de 12h30 à 14h, sur Pastel FM.
Exactement, on était en plein dedans. Voilà, donc de retour sur les ondes de Pastel FM, donc 13h passées de 8 minutes, on est toujours avec Simon de la PU, Marie et Sherazade de la table de quartier, de l'énergie.
De l'énergie, présent représentant de l'énergie.
Tout à fait, tout à fait. Et donc on va, on a parté sur, déjà sur le deuxième point, donc là maintenant on est en direct, on va le faire en direct. Ouais. Ce qu'on disait en aparté, on va le faire en direct. Donc on était sur le deuxième point, Simon, c'est bien ça?
Ouais, du coup c'était un peu, bah ça fait partie des, pas des suites du film vraiment, parce que c'est plus des suites de la mobilisation du PIL en fait, sur le quartier du PIL. Mais c'est en fait depuis quelques mois maintenant, depuis la rentrée, on va dire, même avant la rentrée, mais depuis cet été, quoi. Il y a justement un groupe de gens qui se réunit donc tous les premiers mercredis du mois au 20 rue de Lille à Roubaix et qui viennent sont des gens qui viennent un petit peu de donc d'une part du quartier du Pile, de la mobilisation du quartier du Pile, mais aussi d'autres quartiers que ce soit à l'Épeule, que ce soit notamment aussi à M, que ce soit à, j'ai oublié le nom, à Moulin-Potainerie, pardon.
Même il y a des gens du Lille qui viennent
Des gens de Lille aussi, ouais.
Les quartiers lillois. Le projet de rénovation à Lille.
Voilà. Et l'idée, du coup, c'est de ces gens-là, c'est de se dire, bon, bah voilà, là, ça s'est passé au Pile. Comme disait Marie tout à l'heure, ça va se passer ailleurs. Mm-hmm. Comment on fait pour être. Parce qu'un des grands problèmes qu'il y a eu sur la mobilisation du quartier du Pile, c'est qu'en fait, cette mobilisation, elle a débuté au moment où, en fait, les gens ont appris que le projet allait avoir lieu. Mm-hmm. Et, entre guillemets, c'était déjà trop tard, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait, déjà, en tout cas, beaucoup de choses qui s'étaient passées. Et donc, l'idée de ce collectif, c'est d'être un peu une espèce de cellule de veille, on va dire, un peu de pouvoir un petit peu être en relation avec des gens sur le terrain qui savent un peu en avance, ah bah tiens, là, dans tel quartier, il va y avoir tel projet, à tel endroit, moi, je sais que nana. Et donc, du coup, de pouvoir un peu travailler en amont des projets, quoi, avant qu'ils soient lancés, avant que toute la machine soit lancée et qu'on se retrouve un peu dans le rouleau compresseur, en arrivant à plus faire de choses. Et donc voilà, donc c'est un collectif logement et cadre de vie, on dit, parce que du coup ça concerne pas que le logement en tant que habitation, quoi, mais c'est aussi la rue, les voisins, les commerces, c'est exactement, et c'est pour que justement les habitants puissent reprendre la main sur comment leur quartier va se transformer, quoi, et qu'on arrête de subir des choses qui viennent d'en haut et qui viennent s'écraser comme ça dans les quartiers et taper dans tout ce que Marie a très bien décrit juste avant la pause, quoi. Donc voilà.
Et on peut aussi rappeler un peu l'expérience justement de la table de quartier, parce que moi je m'en rappelle à plusieurs réunions où on a dû faire intervenir des avocats, des juristes. Donc c'est aussi l'esprit, c'est de donner des informations sur les droits, parce que tout le monde n'a pas conscience tout le temps, de ses droits.
Ouais.
Et ça, c'est important aujourd'hui.
Et aussi, il faut rappeler l'histoire de la création de ce collectif logement et cadre de vie. En fait, c'est dû au travail qu'on a mené pour la mobilisation qui a été effectuée sur le Pile via la table du quartier. Et aussi, il y avait, Simon et moi, on a effectué un travail sur la résidence de Lausanne qui est au Pile aussi, en fait, et qui a pas mal de problèmes avec tous les locataires, tant de problèmes qu'on doit vraiment faire monter aux services concernés. Et après, voilà, les décisions venaient de cette démarche-là. Et il y avait aussi à Rue du Jardin, à la Fosse aux Chênes, aussi les mêmes problèmes avec le même bailleur et tout, avec les locataires. Et de cette idée-là, on s'est dit, pourquoi pas faire un collectif de logement qui défend les droits des locataires beaucoup plus et des habitants, et d'être avec eux, les accompagner dans leur démarche. C'est un peu ça l'histoire, tu peux rajouter un...
Ouais, non, mais c'est ça, c'est à la fois, du coup, là, moi, j'ai parlé plus des projets de rénovation, et là, après, il y a aussi les, donc, qui sont des problèmes en devenir, quoi, quand les projets arrivent, mais il y a aussi ce que dit Sherazade, c'est-à-dire les problèmes quotidiens des résidences, notamment. Donc là, il se trouve qu'on était sur deux résidences dans deux quartiers différents, mais avec le même bailleur, donc un bailleur social, donc avec à peu près les mêmes caractéristiques de problèmes, genre de malfaçon, de logement insalubre, etc. Et où du coup, toute l'idée de ce collectif-là, c'est à travers ces deux expériences, de continuer à aller chez les gens, à un peu montrer, comme Marie le fait, de dire que quand on se met ensemble collectivement, on arrive à avoir des résultats. Donc voilà, on avait parlé notamment dans une précédente émission d'une mobilisation qui avait eu justement au siège de Villogia, parce que du coup c'est le bailleur qui est concerné par ces logements, et donc du coup on a pu créer un échange entre les différents locataires de Villogia sur Roubaix, mais aussi du coup aussi sur Lille avec via la PU de Fives. Et donc voilà quoi, c'est l'idée de dire ensemble on est plus fort quoi. Et donc d'ailleurs pour un peu continuer là-dessus sur cette mobilisation qui avait eu lieu aujourd'hui, donc on avait eu des promesses à l'époque, j'en avais parlé dans l'émission de la part du bailleur de travaux qui devait intervenir. Voilà. Il faut savoir que c'est évidemment plus compliqué que ça et que aujourd'hui, par exemple, donc à la fosse aux chênes, les gens ont décidé de dire bon bah ça y est, voilà, on a beau aller occuper les locaux, faire des mobilisations, des manifestations, des tracts, des machins, etc., blabla, c'est une perte de temps, ça sert à rien, c'est des gens qui veulent pas discuter. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben ils ont pris un avocat et ils attaquent collectivement le bailleur pour tous les problèmes qu'ils ont dans leur résidence. Ouais. Et donc voilà.
Et aussi à la résidence de Lezin, pardon, c'est la même chose en fait. Il y avait des promesses qui s'étaient faites par les responsables, mais elles ne sont pas tenues malheureusement. Et donc là, on va réfléchir à faire une autre phase et voir comment on peut faire pour faire avancer ce dossier en fait.
Mais ça, tu peux le faire chez les bailleurs sociaux, mais pas chez... pas chez les bailleurs privés. Ouais. Chez les bailleurs privés, si tu défends, t'es foutu. Je te le dis tout de suite.
Ouais, mais il y a une démarche qui peut être faite dans le privé. Il y a des conciliateurs de justice qui existent.
Oui, la DIL, c'est ça. Cas,
ouais. Et, moi, j'ai reçu un conciliateur de justice ici.
Oui, mais moi, je fais aussi ça.
Qui m'expliquait un peu justement les démarches et les dossiers que lui gérait.
Ouais, ouais.
Et l'avantage qu'il a, c'est que lui, il dépend d'un juge et d'un tribunal.
Mmh.
Donc, il peut convoquer le privé,
ouais.
Le bailleur privé, il peut le convoquer. Et sa mission, elle est dans la conciliation. C'est-à-dire que c'est pour ne pas justement aller devant les tribunaux.
Ouais, ouais, ouais.
Mais tout locataire peut le faire, peut l'interpeller lui.
Oui, c'est sûr, mais je pense que dès le départ où tu vas peut-être être en froid ou te défendre, au bout, au tournant, il t'aura, il finira, à la fin de ton bail, il renouvellera pas ton bail, c'est ce qui m'arrive, parce que je me suis défendue. Donc, tu te dis, c'est bien, les privés, c'est bien, j'en ai eu deux, un 20 ans dans une maison, et l'autre, dans un an, ça y est, c'est fini, le bail, il renouvelle pas, et je me dis, parce que je me suis défendue, on te dit, vous êtes à trop dans la maison, alors qu'on est rentré, on était pareil qu'au jour d'aujourd'hui, et on te dit, je t'envoie une lettre commandée, tu dis que tu as un enfant qui est revenu, que tu as un enfant en plus, que la maison elle est trop petite pour toi, et je renouvelle pas ton bail, et tu vas dans les logements sociaux. Donc j'ai encore interpellé l'adjointe au maire les jours du vœu du maire, qui m'a dit... il faut aller tous les jours, mais c'est ce que je fais, je lui ai répondu. Et elle m'a répondu, à ce moment-là, écrivez au président de LMH, il va vous répondre. Bon courage, madame. Voilà, si ça, c'est une élue, dites-moi à quoi elle sert, elle. Je veux savoir, dites-moi. Parce qu'elle est bien contente quand même d'aller chercher, je vais parler vulgairement dans mon langage, son fric à la fin du mois. Donc, faites un peu votre boulot. Elle te donne un logement, 4 chambres, c'est bien. Elle te dit que c'est dans tes critères, ok. Si t'as un scooter et si t'as un enfant malade, le scooter, donnez-moi la formule pour le monter. À part une corde sur chaque roue et le monter comme ça à la lisière, là, j'ai pas d'autre solution. Hein. Donc ça correspond juste avec les problèmes de santé de Francky, c'est pas possible. Et ça, elle l'entend pas du tout. Donc c'était urgent, vous devez partir, vous êtes parti, moi je vous ai proposé ça, vous l'avez pas pris, tant pis. Et je vois que dans le journal, je te dis, dans le journal de hier, ce monsieur, pareil, il est hébergé gratuitement chez des gens, le logement, tu vois sur la photo, l'eau elle coule comme ça, c'est un problème, parce que maintenant tu peux regarder n'importe où dans le pile, tout couple a presque 7, 8, voire des fois plus d'enfants. Ils en ont des grands, ils en ont des petits. Et t'en as même qui sont mariés. J'ai eu le tour il y a 2 ans. Mon fils il était parti, il s'était mis en ménage et tout. Ça n'a pas été. Il est revenu à la maison. Ça aussi, ça arrive. Et t'as ton adjoint mère qui dit votre enfant il travaille, mais qu'est-ce qu'il fait encore chez vous? Un enfant, tu l'as pas comme ça, c'est pas un petit chien qui dure 10 ans. Un enfant, tu l'as toute ta vie, tu l'as mis au monde, il y a toi. Et s'il s'en va, c'est bien. Et s'il revient, t'es là pour lui. C'est la vie au quotidien, ça. Ton enfant, tu l'as à vie. c'est tout. Mais ces gens-là, ils ne l'entendent pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut demander. C'est pas des logements, une chambre, deux chambres, c'est des logements, trois, quatre chambres. La pauvre Yolande, on va revenir sur Yolande encore, qui recevait ses petits-enfants. Et au jour le jour, tous les week-ends, pendant les vacances, peut-être qu'elle dépannait ses enfants qu'elle travaillait et qu'elle dit bah, « je vais garder la petite fille ». Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a une chambre. Elle la met où, sa petite fille? Elle peut plus les recevoir pour dormir. Ça, c'est pas normal. Elle, non seulement elle était propriétaire, elle redevient locataire. Et maintenant, au jour de jour, de maintenant, elle peut plus prendre ses petits-enfants pour dormir. Elle a eu un petit meublé... personne âgée, rue Racine 9, c'est ça? Un truc comme ça C'est pas normal, c'est pas normal. Faut arrêter. Il y a un moment donné où après ils disent mais vous êtes jamais content, vous râlez tout le temps. C'est pas normal. Vous êtes mis contre nous. Non, c'est pas mis contre nous, contre vous. Quand on vous met la réalité devant vos yeux et quand on voit pas dans le sens du poil de la bête, eh ben ça plaît pas à ces gens-là. Donc du coup dès le départ où ils voient ta figure arriver, eh ben ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Et ça, c'est pas logique non plus.
Mais c'est ça qui est compliqué, c'est que ce que dit très bien Marie, c'est que du coup, en général, quand on est locataire et qu'on a justement dans un rapport avec un propriétaire, il y a un rapport de force qui de toute manière est défavorable. Et ça, c'est quelque chose que normalement le droit est censé corriger, mais on est dans un rapport où vous êtes dépendant, quand on est locataire, on est dépendant de son propriétaire. Et, voilà. Et donc, normalement, la loi est censée corriger ça. Elle le fait en partie. Mais juste en partie, et en plus de ça, c'est compliqué pour des locataires de mobiliser le droit parce qu'il y a l'accès à l'information est compliqué, et puis après pour faire valoir, pour arriver en face de son propriétaire et dire non mais là Coco t'as pas le droit de faire ça ou etc machin, c'est pareil, faut oser, voilà, on est souvent isolé, on a souvent d'autres difficultés à gérer à côté aussi, et donc du coup c'est pour ça que bah voilà, enfin après je vais reparler de l'APU de FIV, mais enfin ou des APU de manière générale, mais c'est à ça que ça sert aussi, c'est de justement montrer que collectivement ou en tout cas en étant soutenu, eh ben, on peut arriver à se sortir de ces questions-là. Aujourd'hui, clairement, le collectif roubaisien sur le logement, il est pas subventionné, on a très peu de moyens, c'est des bénévoles qui, par ailleurs, travaillent sur ces questions-là, qui sont décidés de se qui ont décidé de se rejoindre pour aider un petit peu à travailler sur ces questions-là. Mais évidemment, comme le dit Marie, enfin, il faudrait aujourd'hui, c'est pas nous, on serait pas capable aujourd'hui de voir ces problèmes-là, surtout Roubaix. Il y a tout un travail énorme à faire, et donc ça mériterait qu'il y ait une structure qui soit capable aujourd'hui de prendre en charge ces questions-là. Et on parle de structures existantes, mais il faut voir aujourd'hui que c'est déficit. C'est déficitaire, enfin je veux dire, ou alors il n'y a pas assez de moyens qui sont mis pour justement assurer aux locataires et aux habitants roubaisiens le droit de se défendre face à leurs propriétaires, le droit de vivre dans un logement décent, dans un logement qui n'est pas insalubre, qui n'est pas humide, qui n'est pas trop cher par rapport aux ressources de la famille, de pouvoir accéder à un logement social. Tout ça, c'est des questions qui sont fondamentales et qui sont absolument pas assurées ici. Donc nous, on essaye de collecter, d'alerter sur ces choses-là. On n'a évidemment pas les moyens de faire du cas par cas, etc. Peut-être dans un futur proche, on verra comment ça se développe, ouais. Etc. Mais voilà, c'est vraiment une grosse, grosse question qui, aujourd'hui, sur Roubaix, c'est clair, mais pas que sur Roubaix, hein, faut pas non plus dire que c'est que à Roubaix que ça se passe comme ça, qui, aujourd'hui, trouve pas de réponse.
Exact. Ouais. Et peut-être on peut leur donner le contact pour les gens qui,
ouais.
Qui sont intéressés, oui, bien sûr.
Voilà, de... ouais. Alors, du coup, donc l'idée, c'est peut-être pour lire juste l'appel, c'est nous appelons à une mobilisation collective et autonome. C'est important parce qu'aujourd'hui, ouais. On voit que les associations, qui sont subventionnées, qui ont des liens avec des institutions, enfin. C'est toujours compliqué parce que le logement, on touche à des trucs, et où du coup, c'est l'autonomie est très importante dans les quartiers aujourd'hui pour pouvoir arriver à avancer. Donc, une mobilisation collective et autonome sur ces thèmes, un partage des moyens, des savoirs et des pratiques pour une action populaire roubaisienne en faveur du logement et du cadre de vie. Donc, le mail, c'est collectiflogementroubaix@gmail.com, donc collectiflogementroubaix@gmail.com, voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est permettre à tous et toutes de vivre dans un logement et un cadre de vie qu'on a choisi, assumer et promouvoir le caractère populaire de la ville de Roubaix, parce qu'il faut dire aujourd'hui que les politiques du logement et du cadre de vie, bah, sur Roubaix, elles sont pas à destination de ces populations-là, ou alors très peu. Et enfin, appuyer les souhaits et revendications des habitantes. Donc voilà, les écouter, que ce soit vraiment dans les projets de rénovation, de transformation de la ville, que ce soit les habitants, ceux qui utilisent tous les jours la ville, qui soient les premiers entendus sur comment ils veulent voir leur quartier évoluer.
Exactement.
Vous avez quelque chose à rajouter, Sherazade ?
Non.
Non. Et moi, je pensais aux syndicats qui existent déjà, comme la CLCV ou la CNL. Parce que c'est vrai que c'est des vieilles... Oh, c'est péjoratif ce que je dis. C'est des enseignes qui ont un certain âge et qui ont eu du mal à se renouveler. Et aujourd'hui, je pense qu'ils continuent à survivre, je pense. Parce que là, c'est bien ça, non ?
Bah, y a des gens qui se mobilisent dans ces syndicats, évidemment. Après, là, je vais parler pour la PUFIV, et puis plus particulièrement en mon nom, mais c'est vrai que nous, par exemple, on organise régulièrement des événements avec eux, donc pour notamment des manifestations pour la fin de trêve hivernale qui permet le retour des expulsions pour les gens qui sont en difficulté de logement et qui ont des dettes. Mais c'est vrai que dans le traitement quotidien, c'est plus compliqué, mais parce que aussi tout simplement c'est des gens qui ont été très importants, je pense, faut le dire quand même, dans les luttes pour l'habitat dans les années 70-80. Mais de fait, on observe ça à Lille, à Roubaix, mais aussi ailleurs, c'est que en fait, il n'y a pas eu de renouvellement de ces militants, de ces militantes, et que donc du coup, c'est aussi des gens qui galèrent parce que ils sont pas nombreux et que aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la problématique du logement, c'est une question qui est vraiment tentaculaire et voilà, je pense que c'est surtout dû à ça, à une difficulté de mobilisation. Aujourd'hui, le logement n'est pas considéré comme une problématique fondamentale dans la vie des gens et de transformation de transformation sociale, quoi. Enfin, aujourd'hui, nous, on pense en tout cas à la PU que, en effet, les questions d'emploi, t'en parlais tout à l'heure, c'est des questions ultra importantes et qui ont une place centrale dans la vie des gens. La question du logement, aujourd'hui, surtout à une époque où le travail est de plus en plus précaire, la question du logement, du quartier, c'est des questions qui deviennent aussi de plus en plus centrales et pour lesquelles les gens veulent et peuvent se défendre. Et donc, du coup, nous, on fait le pari qu'il faut y aller pour que, justement, voilà, les quartiers se mobilisent, qu'ils arrêtent de se faire écraser et qu'il y ait vraiment un respect de toutes les catégories sociales dans la fabrication des villes, quoi.
Et bien vraiment en amont, je pense, de l'emploi, parce que aujourd'hui, comment tu peux être stable dans ton travail si jamais t'as pas de logement.
C'est sûr. C'est sûr.
C'est des questions qui sont liées, comme la problématique des travailleurs pauvres qui sont aussi des difficultés à se loger. Enfin, c'est des choses qui existent. Enfin, c'est des questions qui, en effet, qui sont vraiment très très liées, quoi.
Ah oui, il y en a qui ont un travail, il y a des personnes qui ont du boulot et qui dorment dans leur voiture.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, donc
c'est vrai.
Là, on touche des points très très sensibles. Donc après, je ne vais pas dire que ceci explique cela, mais ça joue énormément.
C'est sûr.
Sur la personne et sur son environnement.
C'est clair.
Et peut-être du coup, on en parlera plus dans la troisième partie, mais c'est rendu encore plus important dans la vie des personnes, le logement, du fait aussi qu'on est dans une période d'augmentation constante des loyers et du coup du budget que les familles allouent au logement. Enfin, c'est vraiment, ça devient assez hallucinant. Et que donc du coup, vraiment, le logement devient un bien à défendre et à recouvrer pour beaucoup beaucoup de familles. Ça devient quasiment, on en reparlera tout à l'heure, un luxe, quoi.
C'est une bonne transition pour la troisième partie. Donc on va faire une petite pause. On va laisser Farouk nous mettre quelque chose. Voilà.
Destiny. Saint-François d'Assise et Roubaix Sport et Culture organisent le premier forum emploi sur Roubaix le mercredi 7 février 2018 de 13h30 à 18h. Seront présentes plus de 50 entreprises qui recrutent sur les métiers de la vente, le commerce, la relation client appel B2B B2C, la sécurité, la restauration, la banque, l'assurance, les transports, les services à la personne, l'animation.
À la clé des CDI, CDD, contrats en alternance, en apprentissage, contrats de professionnalisation, intérim, contrats étudiants, job d'été, stage et recrutement dans la fonction publique, ce sont également des offres d'emploi pour les personnes souffrant de handicap.
Le forum emploi SFA est ouvert à tous. Un forum emploi ambitieux où chacun pourra défendre sa candidature. Un événement unique qui se déroulera au lycée Saint-François d'Assise, 59 avenue de la Fosse aux Chênes à Roubaix.
Renseignements et inscriptions sur www.forumemploi-sfa.com. Alors, rendez-vous à toutes et à tous avec vos CV le mercredi 7 février 2018 à partir de 13h30 au Forum SFA.
Parce que vous avez des choses à dire, des expériences à partager, parce que vous avez envie que ça change, Citoyens d'abord vous donne la parole.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré.
L'atelier populaire d'urbanisme de l'île Five et Radio Pastel, dans le cadre de l'émission Citoyens d'abord, vous propose un nouveau rendez-vous, La ville est à nous, une émission consacrée aux questions du logement, à l'habitat et aux enjeux de transformation des villes. Ce sera tous les premiers samedis du mois, de 12h30 à 14h, sur Pastel FM.
Alors, de retour sur les ondes de Pastel FM, 13h passées de 34 minutes, c'est vrai que le temps défile. Donc on revient sur la troisième partie. Je vais te laisser continuer
Ouais, bah du coup c'était l'idée c'était de revenir un peu sur le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre. Donc la Fondation Abbé Pierre tous les ans produit un rapport dans lequel elle parle des problématiques de mal logement en France. Donc du coup avec beaucoup de statistiques, mais aussi des cas concrets, etc. Et du coup pour un peu comme ça interpeller les pouvoirs publics sur la question du logement en France. Et donc cette année, ce qui a été mis en avant dans ce rapport-là, on le disait en introduction, c'est le fait que il y a un retour depuis plusieurs années, depuis 2006, par notamment des logements surpeuplés. Donc c'est ce que le chiffre que je donnais en introduction, c'était ça. C'était il y a 9,5 millions de personnes qui vivent dans des logements trop petits, et à peu près 1 million qui sont en situation dite de surpeuplement accentué. Donc tout ça évidemment c'est fait avec des grilles, etc. Mais donc du coup, enfin, la question c'est pourquoi il y a ce retour un petit peu du logement, des logements trop petits en France. Aujourd'hui on a l'occasion en plus d'en parler de cas plus concrets. Donc moi je vais juste donner quelques chiffres comme ça dans cette partie-là, mais je pense que l'idée c'est de montrer un peu toutes les difficultés que peuvent rencontrer les familles qui vivent dans des logements trop petits. On en avait déjà parlé sur une émission précédente, mais vivre dans un logement trop petit, ça a des conséquences, notamment ça a des coûts sociaux très forts, donc en termes d'échecs scolaires, de risques pour la santé, de conflits dans la famille, avec le voisinage, avec les propriétaires, etc. Donc voilà, c'est toutes des choses où en fait c'est pas que la question du logement en soi, mais en fait ça va avoir une influence sur toute la vie d'une famille. Et ça va faire que les problèmes vont de fait s'accumuler. Donc juste pour info, après je m'arrête là-dessus, mais pour si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui se demandent s'ils sont en situation de suroccupation. Donc en gros, pour la norme minimale en France, c'est une pièce à vivre et une chambre par couple ou par adulte ou enfant de plus de 15 ans. D'accord. Donc, si vous avez une famille avec deux enfants, garçons et filles de plus de 15 ans, donc du coup, vous devez disposer dans votre logement d'un séjour et de trois chambres. Et donc, il y a surpeuplement, pardon, lorsqu'il manque une chambre, et surpeuplement accentué, j'en parlais tout à l'heure, s'il en manque deux. Donc voilà, donc des enfants qui dorment dans la même chambre ou des parents qui sont obligés de dormir dans le salon pour que chacun de leurs enfants et une chambre pour eux, tout ça c'est considéré comme de la suroccupation des logements. Et donc c'est un problème qui touche notamment les locataires et notamment dans le parc public, ça qui est assez intéressant. Et aussi c'est une question qui, on parlait la semaine dernière, on faisait une émission spéciale, une thématique sur les discriminations liées au logement, mais c'est une question qui va aussi beaucoup toucher les familles immigrées en fait, qui vont arriver, primo-arrivantes, qui vont avoir 48%, on a par exemple 48% des ménages immigrés d'Afrique subsaharienne qui vivent de fait dans des logements considérés comme surpeuplés. Donc c'est des chiffres qui sont quand même assez énorme. Ça touche encore une fois évidemment les publics les plus jeunes, donc les jeunes parents, etc. Et évidemment dans les villes les plus grandes, puisque c'est toujours dans les villes les plus grandes qu'il y a de plus de difficultés à se loger, qu'on dit que le marché du logement est le plus tendu, quoi. Donc voilà.
C'est quand même des chiffres, je veux dire, effarants, parce que on pourrait pas s'imaginer ça si jamais on n'avait pas une étude sérieuse qui est faite et qui nous démontre un peu la réalité, parce que c'est quand même...
C'est vrai.
Et en plus, la précarisation des personnes qui y vivent s'accentue. Et quand on voit que le gouvernement qu'on a baisse les APL, bah, sincèrement, là, c'est une vraie catastrophe. Parce que c'est lié.
Ouais.
On accentue les écarts. Ils sont de plus en plus importants.
Mais c'est exactement ça. Ce qui est montré, c'est qu'en fait... jusqu'à il y a peu, en fait, on vivait dans des logements de plus en plus grand. Enfin, les familles, le nombre de mètres carrés par famille dans des logements augmentait de manière assez régulière. Donc, les familles vivaient dans des logements de plus en plus grands. Aujourd'hui, c'est en train de diminuer. C'est-à-dire qu'on vit, les gens vivent dans des logements qui redeviennent de plus en plus petits, quoi. Donc, ça montre vraiment, comme tu disais, ce retour des inégalités, du coup, via le logement, mais qui s'explique par des questions liées à l'emploi, liées aux discriminations, liées à plein d'autres questions qui, du coup, vont directement influer là-dessus, quoi.
Et après, on ne voit pas très bien qu'est-ce qui est fait pour contrer, j'allais dire, cette augmentation de précarisation. C'est ça, on n'a pas de réelle lisibilité sur, dans les années à venir, est-ce que ça va s'accentuer ou est-ce que ça va diminuer. Ouais. Là, on est plus dans le fait de dire que la précarisation s'accentue.
Ouais.
C'est ça qui est dramatique.
Bah, du coup, il y a des solutions qui sont proposées par la Fondation Abbé Pierre. C'est mieux mobiliser le parc HLM en répondant notamment, par exemple, aux demandes des 36 000 ménages. Il y a 36 000 ménages en France. Donc, c'est un chiffre qui est assez faible quand même, faut le dire, par rapport aux populations, donc aux millions de personnes qui vivent dans des logements trop petits. Mais donc, il y a aussi des personnes qui vivent dans des logements qui, pour elles, le disent, qui sont trop grands. Et qui voudraient déménager, mais en fait elles le font pas pour plusieurs raisons, et notamment une, c'est que à côté de ça, le marché de l'immobilier et du logement locatif, il a tellement augmenté que du coup, s'ils trouvaient à se loger dans des logements plus petits, bah en fait ils paieraient plus cher que dans le logement dans lequel ils sont actuellement, qui a un vieux bail et qui donc du coup a vu les loyers augmenter de manière beaucoup plus faible. Donc ça, ça montre surtout ce qu'on disait dans la fin de la deuxième partie, le grosse problématique de l'augmentation générale des loyers en France pour les locataires, quoi.
Il y a même des situations où vous avez dans des bars de logement social, où vous avez des familles qui avaient des appartements avec 4-5 chambres, les enfants ont grandi, sont partis, ont trouvé du travail, les personnes sont toujours dans un appartement avec 4-5 chambres, mais ils sont plus qu'à deux à l'occuper. Et ça existe encore aujourd'hui.
Ça existe, il y a des situations.
Et alors que on pourrait faire faciliter, lever les freins pour justement qu'une famille qui se trouve justement dans la situation inverse, avec plusieurs personnes et avec une ou deux chambres, on devrait lever les freins pour faciliter, pas les échanges, mais presque.
Ouais,
et ça devrait, on devrait analyser tous ces freins-là et trouver des solutions pour les lever.
Après, du coup, comme je disais, ça, c'est des chiffres. Je pourrais en donner plein d'autres, mais l'idée, c'est aussi de montrer comment c'est le parcours d'une personne aujourd'hui qui, parce qu'il y en a plusieurs ici à Roubaix, et je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront dans ce qu'on est en train de raconter, notamment des personnes à qui on n'arrête pas de dire perpétuellement, que ce soit dans les médias locaux ou nationaux, qu'il faut se bouger, que machin, ça va pas tomber du ciel, etc. Mais de montrer à quel point, pour ces gens-là, c'est le parcours du combattant pour aujourd'hui trouver un logement qui correspond à leurs réels besoins, quoi. Et c'est vraiment des questions de besoins, c'est pas du luxe, quoi. Et donc, du coup, je pense que c'est intéressant d'insister là-dessus, sur aujourd'hui les grosses difficultés administratives. Tu parlais justement de ces difficultés par rapport au logement trop grand. Mais aujourd'hui, pour les familles qui veulent changer de logement parce que leur logement est trop petit, de trouver quelque chose qui leur convienne, quoi.
Mais il y a quelque chose qui m'a toujours... comment je vais dire ça, les commissions. Avant, on parlait des commissions d'attribution, on en parlait souvent. Je pense que là, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'on en parle un peu moins. Mais j'ai toujours trouvé que ces commissions... il y avait un manque de transparence totale.
Ouais.
Et j'ai jamais compris pourquoi on n'a pas été jusqu'au bout pour essayer de faire en sorte de comprendre comment ça fonctionne. Comment on peut faire attendre des gens dans des situations en faisant retoquer des dossiers sans argumentaire réel, en perdant des dossiers. On a essayé de... on a fait un petit progrès avec un numéro unique pour justement que ça se perde pas, tout ça et tout. Mais concrètement, est-ce que ça a été évalué, leur système? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens Il y a plus de transparence dans le système ou pas? Est-ce qu'on sait ça?
Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, puisque moi j'ai un dossier depuis 2015 avec le même numéro. C'est tout le temps moi qui les appelle et on a l'impression de les déranger parce que quand on les appelle, ils répondent. De toute façon, si on a quelque chose qui correspond à votre dossier, on vous rappellera. Et alors là, tu peux attendre si tu ne rappelles pas. Parce qu'ils ne te rappellent jamais.
Et aussi, il faut
rappeler. C'est un numéro sur un papier et puis voilà, si tu les appelles, c'est bien. Et si tu ne les appelles pas, bah, tu leur fous la paix. C'est ça leur devise, je pense.
Peut-être que du coup, tu peux revenir un petit peu, toi, sur ton histoire par rapport au logement, ce que tu allais dire. Hein. Sur comment tu es arrivé dans ton logement.
Dans mon logement, ça faisait plus de 20 ans que j'étais dans un logement de 145 mètres carrés chez un privé. Il est venu frapper à ma porte en disant de toute façon, il y a un projet qui se prépare. Et puis moi, je suis pour vendre la maison, donc comme vous êtes dedans depuis 20 ans, je peux vous être prioritaire, mais je la vends 70 000 euros. Avant ça, déjà, il était venu faire visiter sa maison par son frère, la faire évaluer. Il m'avait dit que c'était des gens de la mairie, enfin, il m'avait bien endormi. Et je lui dis, je vais voir avec mon garçon. Mon garçon, il n'a pas réussi à avoir le crédit. Moi, je ne l'ai pas. Je travaille 3 heures par jour. Donc, je ne l'ai pas eu. Je l'aurais pas eu. Je lui ai demandé. J'ai proposé à mon propriétaire de lui louer encore pendant 5 ans en location-vente. La réponse a été négative. Non. D'ailleurs, vous avez un apport? Non, je n'ai pas d'apport. Si jamais vous avez du retard de loyer, tout ce que vous m'aurez versé en plus, ça me reviendra. Donc, en 20 ans, je n'ai jamais eu un retard de loyer. Enfin, bref, donc j'ai eu 6 mois pour moi partir. Donc, j'ai fait ma demande de logement. L'adjointe au maire au logement, elle est venue chez moi. Je lui ai dit, c'est quand même assez urgent, mais j'ai besoin au moins d'un balcon ou d'un jardin et 4 chambres parce que on était encore beaucoup plus que ça, qu'on est maintenant. On était dans le logement, là, 145 mètres carrés, 5 chambres, 2 petites mais 3 grandes. La grande cour, grand salon, c'est un ancien commerce, donc 700 euros de loyer. Je lui dis quand même un logement assez bien, sinon c'est pas la peine. Donc rien, il n'y a rien qui s'est présenté. Entre deux, un locataire privé aussi qui s'en allait dans le logement privé, il me l'a proposé, j'ai dit ok. Donc je l'ai su un petit peu après, l'ancien locataire, je l'ai su il n'y a pas longtemps, a payé 670 euros. Pour un 58 mètres carrés, puisque je suis dans un 58 mètres carrés, chambre mansardée. Donc quand tu fais les chambres, quand tu fais le ménage, tu le fais tout en deux, plié en deux. Ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas du tout de place. Leur jeu, c'est en bas. Leur devoir, c'est en bas. Ils n'ont pas de place. Enfin bref. Et le loyer, 750 euros. Donc j'avais toujours pas eu de proposition de logement par LMH. LMH m'a proposé un logement avec l'adjoint au logement qui m'a dit on en a un au Carrième. C'était un 4e étage, 4 chambres. Toujours bon, donc pas de balcon, rien.
Parce
du tout.
Parce qu'il y a combien d'enfants du coup
On est à 6 et moi ça fait 7. On est à 7. Et franchement, quand je reçois mes enfants, c'est pas la peine.
Et donc, on te proposait un logement qui, même si tu l'avais accepté, aurait été en suroccupation quand même.
En suroccupation parce que... Et puis, parce que 4 chambres, j'ai même pas... Franchement, tous les gens que j'ai parlé m'ont dit... C'est des gens qui ont de la famille dedans. Ils m'ont dit, c'est petit, tu vas pas, c'est pas la peine. Tu vas galérer aussi, c'est pas la peine. Donc, du fait que j'ai refusé à LMH... Et que c'était dans le dossier la demande au logement rue des Fabricants, la maison du logement rue des Fabricants. De ce fait-là, elle m'a envoyé un courrier en disant nous avons traité votre dossier avec urgence, nous vous avons proposé un logement 4 chambres qui correspondait tout à fait à vos critères, vous avez refusé. On vous enlève de la demande de logement à la ville de Roubaix et fini, plus rien du coup. Je suis repartie, donc là je suis dans un logement 750 euros, 58 mètres carrés. Ça fait, j'ai entamé ma 2e année et j'ai fait 20 ans dans une maison 145 mètres carrés à 700 euros le loyer. Donc, Et là, je suis encore avec mes demandes de logement, et toujours, et encore.
Et tu peux raconter justement comment ça se passe quand tu vas au guichet, tout ça?
Ben, la secrétaire d'LMH, elle est très désagréable. Quand tu demandes un rendez-vous, j'avais eu même par un petit jeune homme, puisqu'elle elle était en vacances, il m'avait dit, elle va vous appeler, la dame du Nouveau-Roubaix qui s'occupe des logements. Je crois que ça fait un an, j'attends encore l'appel. J'ai toujours pas eu. Pourtant, il y a programmé sur l'ordinateur. Logiciel, je les relève tout le temps et tout le temps et tout le temps. Il me renvoie, non, c'est pas la peine, sinon je suis regardée de haut. Et c'est dommage à dire, hein, mais je suis avec la mairie de Waterloo. J'ai été voir du côté de Waterloo parce que Roubaix, c'est pas la peine. De toute façon, à Roubaix, au service logement, je suis jetée. Ils m'ont dit, c'est pas la peine, Madame Allo, elle vous a retiré. Donc, vous n'êtes plus dans nos services, vous n'êtes même plus dans l'ordinateur. Donc, c'est pas la peine, ça sert à rien. Donc, du coup, j'ai dû aller sur Waterloo. Je suis sur Waterloo. C'est ce que je reviens toujours sur le même. Tu fais 20 ans au 111 rue Marie-Buisine, tu vas faire 3 ans. Et peut-être un peu plus, parce que si tu n'as pas de logements sociaux, je reprends pas dans un privé, tu vas faire 3 ans et demi. Et quand ils auront tout embelli, je ferai comme Yolande, je ferai comme Amandine, je vais partir plus loin. Voilà, ça veut dire ta vie là-dedans. Et ils auront réussi quand même à te faire partir. Par tous les sens du terme, ils auront réussi. Même si tu veux pas partir, c'est eux qui te poussent. T'as pas le choix.
Voilà. C'est quand même hallucinant. Moi, j'appelle ça la misère, de faire la misère aux gens. Il n'y a pas que Marie qui a ce genre de problème. Il y a beaucoup de locataires qui n'arrivent pas à trouver un relogement depuis 15-20 ans, on va dire, entre guillemets. Moi, j'en connais des cas concrets. Une autre habitante au pied aussi à la résidence rue de Luzène. Elle a fait une demande de mutation, elle voulait changer de son centre de logement par son surpeuplement. Depuis 15 ans, elle n'arrive pas toujours à trouver un logement. Et elle a fait une demande chez un autre bailleur en disant que peut-être ça va bouger ailleurs. Elle a perdu des années d'ancienneté dans l'ancien bailleur. Ça, c'est vraiment, je ne comprends pas comment il fonctionne. L'administration, pour moi, dans ces trucs-là, elle est incompréhensible. Et aussi, il faut dire que elle cherche toujours un logement pour elle, pour qu'elle vit très bien avec ses enfants et sa famille. Elle reprend bien sa vie, mais elle trouve pas. Et récemment, ils lui ont dit, de toute façon, on vous accorde pas un autre logement parce que vous revenez, ils vont pas être suffisants pour payer le loyer d'une autre maison. Ce sera plus cher par rapport à ce que vous payez maintenant. Et comme elle et monsieur, ils ne travaillent pas, du coup, ils vivent sur les allocations et les RSA et la PIEL. Ça, pour eux, en fait, ils n'ont pas un salaire et ils peuvent pas accepter le dossier tel qu'il est. Ils l'ont demandé de trouver un travail et de ramener trois fiches de salaire de 1600 euros. Et comme ça, elle aura un logement. Elle fait comment? Elle
faut être riche.
Voilà. Elle trouve pas de travail, c'est pas évident de trouver un travail à 1100 euros actuellement.
Non.
Elle a des enfants à charge
et étudiants.
Elle est obligée de faire de s'occuper des enfants. Son mari, il a cherché du travail, il trouve pas. Et même s'il trouve un travail, ce sera un petit boulot qui paye nous environ de 800-900 euros. Ce qui vraiment aide pas la famille beaucoup plus, ça va empirer les choses, de diminuer leurs aides sociales et tout. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment une situation que je dis.
Ça veut dire que Roubaix est la ville la plus pauvre. On est bien d'accord, tous ensemble. Mm-hmm. Hein, ils disent bien assez souvent, ils nous le disent
seulement,
bien.
Pas seulement, parce que à Roubaix, vous avez les extrêmes. Ouais, voilà. Vous avez les plus pauvres et
les plus riches.
C'est la ville la plus inégalitaire.
Mais nous,
c'est ça, il ne faut jamais les oublier.
Voilà. Mais nous, de toute façon, quand on entend, certains élus, on est le clan des balochards, on est le pile, hein, on est bien d'accord. Ouais, et ils viennent dire au pile, bientôt ils me disent qu'on est des fainéants. Alors que, non.
Il y a plein de gens qui travaillent.
C'est sûr. Et là, ils te disent, pour toi, avoir un logement social, il faut que tu es riche, parce que tu dois gagner 1600 euros. C'est leur logique à eux. Ouais. Alors, si tu sais si bien parler, trouve-lui une place dans les écoles, tordre une voie 5, passer un coup de balai ou faire de la plonge, rien du ressort, puisque tu as si bien parlé. Et puis, comme ça, au moins, j'aurai un salaire et tu pourras me trouver un logement. Au lieu de lancer la pierre comme ça aux gens, réagis, parle pas comme ça et fais ton travail que tu dois faire. Parce que je pense qu'il y en a, il en manque pas mal du personnel dans les cantines et ce qui s'ensuit. Hein. Ouais. Il en manque pas mal. Alors au lieu de réduire tout le personnel et tous ces gens-là, ouais. fais de l'embauche et après viens critiquer les gens qui ont beaucoup de misère à trouver du travail.
Exactement.
Fais-le ça.
Et surtout, ce qu'il faudrait voir, c'est l'état des gens qui sont dans ces cas-là. En fait, vraiment, c'est
il y en a
ils
beaucoup,
sont pas stables. Ouais. Les enfants, ils sont pas bien.
Non,
mais ils se retrouvent dans un séjour qui est une chambre en même temps, un séjour en même temps, une pièce. Vraiment,
c'est terrible.
Il faut voir les cas des
terrible. C'est terrible.
Ouais. Bah, c'est vraiment ça qui est, enfin, ce que vous dites, enfin, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, en effet, là, ce que tu parles, Khadija, donc, c'est de, on est bien dans le parc social, donc, normalement, ce que tu disais aussi très bien, Marie, c'est que, justement, des logements qui sont censés répondre à une demande qui ne peut pas être fournie par le marché privé, quoi. Mmh. Et là, aujourd'hui, on voit bien que le parc social ne répond absolument plus à cette demande-là. Parce que, donc, je disais tout à l'heure, il y a 17% des locataires du parc social, aujourd'hui, en France, qui vivent dans des logements surpeuplés. C'est quand même énorme, quoi. Et alors après, en Île-de-France, c'est...
ils n'ont pas fait le pourcentage des gens qui vivent dans le parc social et qui ne devraient pas y vivre.
Bah, en fait, c'est compliqué. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, le parc social, ça veut dire... C'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'en fait, ça revêt plusieurs réalités. C'est-à-dire qu'on peut, de fait, comme parlait Sherazade tout à l'heure, gagner 1600 ou même 2000 euros et être éligible au parc social. C'est-à-dire que dans le parc social, il y a grosso modo trois tranches. Il y a une tranche de logement très social, une tranche de logement social et une tranche de logement où vous pouvez accéder à du logement à part jusqu'à même 2000 euros par ménage. Donc le truc, c'est que quand on dit encore aujourd'hui, donc déjà il faut qu'on sorte plus de logement social, ça ok, mais en plus de ça, le truc, c'est que dans les logements sociaux qui sont créés, là je vais prendre le cas de Lille que je connais un petit peu mieux par rapport à Roubaix, mais que déjà on construit très rarement des grandes typologies, donc c'est-à-dire des T4, des T5, ça on n'en veut pas parce que du coup l'intérêt, c'est de faire le plus de fric au mètre carré et donc du coup faire le plus de logements possible. Et en plus de ça, quand on construit du logement social, à Lille par exemple, on a une politique municipale qui se veut volontariste en disant on va faire, quand on tourne sur tout nouveau projet urbain, on va faire 30% de logement social, 30% d'accès à la propriété, 30% de marché libre. Sauf que quand on dit 30% de logement social, les gens disent ah super, 30%, ça va servir aux gens qui galèrent dans leur logement. Sauf que c'est faux, parce que dans ces logements sociaux, des logements qui vont être, qu'on appelle des PLAI, qui vont être du coup des logements très sociaux et qui sont du coup ceux-là vraiment à destination des personnes qui sont en galère, c'est entre 6 et 8% quoi. Et pas plus, sur des projets comme ça, enfin, les normes sont très 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 faibles. Et donc du coup, de fait, on construit pas, ou pas assez en tout cas, clairement, de logements à destination réellement des personnes qui sont dans ce besoin-là quoi.
Mais c'est des volontés, c'est de la volonté politique qu'il faudrait pour influencer ces choix-là.
Bien sûr.
Parce que là, c'est clair.
Bah, c'est ce qu'on disait, enfin, c'est ce qu'on veut défendre avec le collectif logement roubaisien, c'est que, de fait, Roubaix est ce qu'on peut appeler une centralité populaire, dans le sens où c'est une ville où il y a beaucoup d'habitants qui sont considérés comme des classes populaires. Eh ben, soit, c'est pas un fardeau, quelque chose qui doit être forcément, où toutes les politiques qui doivent être menées doivent être faites pour amener d'autres populations, parce que sinon on s'en sortira jamais. C'est pas vrai. Enfin, je veux dire, une Roubaix, c'est une ville qui a une énorme richesse du fait de ces populations là aussi, et que donc du coup il faut pouvoir développer des politiques municipales, comme ça a déjà été le cas dans l'histoire de la ville de Roubaix d'ailleurs il y a quelques décennies, des politiques qui vraiment permettent de répondre aux besoins de ces personnes là quoi.
Et il faut savoir que Roubaix a la plus grosse subvention, la DSU, là, dotation de solidarité urbaine, de France. C'est une péréquation entre les villes riches et les villes pauvres. Bah, Roubaix, elle a la plus grosse subvention de France. Mmh. Donc normalement, cet argent doit servir
à ces cas-là,
à ces personnes. Mmh. Et il y a des critères sociaux déjà très pointus.
Ouais.
Parce que quand on touche de l'argent pour des critères qui sont cumulables en plus, vous savez, il y a des critères qui sont le nombre de RMI, RSA, donc c'est des critères assez pointus. Donc normalement, cet argent devra aller vers ces populations.
Ouais, ouais.
Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas le cas, malheureusement.
Ben non, puis quand tu vois les appartements au bout de l'avenue de Verdun... ils sont à 850 euros. De toute façon, il y en a encore plein de libres. Qu'est-ce que quelqu'un comme moi peut aller donner 850 euros? Ou comme Khadija. 850 euros, c'est impossible. C'est quasi impossible. C'est pas des gens comme nous, c'est des gens qui ont vraiment déjà un beau salaire. Tu peux pas faire des logements à 850 euros comme ça dans les trois ponts. C'est pas vrai. Surtout dans les trois ponts, déjà, faut vouloir y aller. T'as un côté bien et t'as un côté... L'œil est bien, il est vraiment retiré. Je sais pas si vous voyez, hein, juste... il est beau, il est joli à voir. Hein. Mais le prix aussi est beau. C'est pas pour nous.
Ouais, c'est le problème.
C'est trop cher.
On arrive à la fin de l'émission. Donc, ouais. On va faire un petit tour de table très rapide et on conclura sur ce que vous avez retenu ou s'il y a des choses que vous voulez rajouter avant de finir cette émission.
Moi, je dis aux gens qui nous écoutent et que leur quartier va être en projet, venez nous voir, venez nous voir, venez nous voir, parce que vous allez avoir des surprises. Au revoir.
Donc, ouais, si vous voulez, pour nous joindre peut-être du coup aussi, il y a du coup, vous pouvez envoyer un mail à Radio Pastel, je pense qu'ils nous transmettront le message.
Vous savez, si vous avez une boîte mail, c'est encore mieux. Hein.
La boîte mail du collectif logement, et sinon, voilà, la boîte mail du collectif logement Roubaix, je répète, c'est collectiflogementroubaix, tout attaché, @gmail.com, voilà. Et on se réunit tous les mercredis, les premiers mercredis du mois, le matin, à la Fale, au 20 rue de Lille, à Roubaix.
Sherazade.
Voilà,
normalement, vive l'énergie.
Vive l'énergie qu'ils ont fait couler. Si bien. Ouais, c'est bien. Bon, moi aussi, je dis à tous qui veulent rejoindre à nous, vous êtes les bienvenus. Il faut voir, il faut partager les expériences qu'on fait. Il faut venir pour que vous voyez comment ça se passe.
Voilà.
Voilà.
On terminera. Donc, on remercie tous nos auditeurs. Farouk.
Merci, Farouk.
À la technique.
Merci.
Voilà.
Merci.
Rendez-vous dans un mois.
Rendez-vous dans un mois, ouais.
Voilà. Farouk, je te laisse reprendre la main. Au revoir et une très bonne fin de journée.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons les a crus. Démocratie, fais-moi marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con, mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat.
Notre idéal bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix.
On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien.